France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le cours du pétrole s'est envolé ce matin après l'attaque ce week-end perpétrée contre des installations pétrolières saoudiennes. Attaques qui ont non seulement réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir, mais aussi réveillé la crainte d'une escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran.
La Tunisie s'est réveillée sidérée ce matin après le premier tour d'une élection présidentielle hors norme, dont les deux premières places ont été revendiquées par deux outsiders anti-système.
Oui, l'un universitaire sans parti et l'autre publicitaire en prison, des résultats non encore confirmé officiellement.
En France, nouvelle mobilisation contre les retraites aujourd'hui.
Avocats, médecins, pilotes, hôtesses, infirmières, au total une douzaine de professions libérales appellent à manifester cet après-midi à Paris pour défendre leur régime autonome contre le système universel voulu par le gouvernement. Invité de la rédaction aujourd'hui, Maxime Thau, économiste à l'Institut d'études politiques. Et puis les agents des finances publiques se mobilisent eux aussi aujourd'hui contre la nouvelle organisation de leurs services, mais aussi la suppression annoncée de 5 800 emploi au ministère d'ici 2022. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et une grande table consacrée au cinéma aujourd'hui avec, dans la deuxième partie de l'émission, le coup de sang du critique de cinéma Eric Neuhoff, notre invité. Il publie Très cher cinéma français où il évoque le malaise pour lui du secteur à tous les niveaux.
Merci et à tout à l'heure. Si depuis le début des bombardements du Yémen par la coalition menée par l'Arabie Saoudite, 4 années d'effusion de sang n'auront à l'évidence pas suffi à émouvoir outre mesure l'Occident, les attaques de drones yéménites visant ce week-end des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite seront-elles en revanche de nature à changer la donne? Seule certitude, ces attaques sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial, mais plus encore l'envolée spectaculaire ce matin sur les marchés de 10% des cours de l'or noir, ce qui fait déjà craindre à certains une montée des prix à la pompe, ont soudain réveillé l'intérêt de la communauté internationale. La France, tout en assurant l'Arabie Saoudite de sa pleine solidarité, a aussitôt condamné ces frappes qui ne peuvent selon elle qu'aggraver les risques de conflits dans la région. De leur côté, les États-Unis n'ont pas tardé à se déclarer prêts à riposter, tout d'abord en autorisant l'utilisation de leurs réserves stratégiques de pétrole pour approvisionner les marchés, mais aussi en assurant avoir désormais le doigt sur la gâchette, évoquant ainsi et pour la première fois une éventuelle réponse militaire. Enfin, ce matin, la Chine appelle pour sa part Washington et Téhéran à la retenue. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Alors, les attaques de ce week-end ont été revendiquées par les rebelles yéménites. Sauf que les installations qui ont été visées en Arabie Saoudite se trouvent à plus d'un millier de kilomètres de Sanaa, la capitale du Yémen, tenue par les rebelles houthis, d'où la suspicion que ces attaques auraient pu être menées plutôt par l'Iran, qui pour l'instant dément formellement. Enfin, et pour ne rien arranger, voilà que des responsables américains et saoudiens étudient à présent la possibilité que des missiles aient pu être tirés depuis l'Irak. Où en est-on ce matin, Claude? Comment démêler en somme le vrai du faux?
Oui, c'est très compliqué. Ça, c'est le Wall Street Journal qui l'affirme aujourd'hui, qui dit effectivement qu'il ne s'agirait plus d'une attaque au drone, mais avec des missiles tirés sur les installations pétrolières depuis l'Irak. Alors l'Irak, on s'en doute, évidemment, dément, tout autant d'ailleurs que Téhéran, accusé par les responsables de la Maison Blanche d'être à la manœuvre. L'Iran chiite, vous le savez, qui est l'allié des rebelles houthis chiites également, dans cette guerre au Yémen, qui est aussi une guerre froide par procuration, avec un front sunnite incarnée par l'Arabie Saoudite et sa coalition. Alors il y a plein de questions qui circulent encore aussi avec l'impact provoqué par ces attaques sur la production de pétrole mondial, même si l'Arabie Saoudite a déjà elle-même les moyens de combler le manque grâce à ses stocks. En attendant, il faut vraiment noter que ces attaques, elles interviennent au moment où l'Arabie essaie de faire entrer en bourse une partie du capital d'Aramco, l'entreprise nationale de production pétrolière, et que cette attaque évidemment vient fortement fragiliser ce pays économiquement.
Alors au-delà des enjeux, disons, géostratégiques, les attaques de ce week-end posent une autre question, Claude, celle de la vulnérabilité des installations pétrolières saoudiennes. Comment se fait-il que le plus grand site mondial de transformation du brut ait pu être atteint par de simples drones?
Et c'est vrai, Thomas, qu'on parle quand même d'une des zones les plus surveillées au monde. L'Arabie Saoudite, c'est quand même pas pour rien un des plus gros acheteurs d'armes de la planète pour protéger justement ces sites pétroliers sensibles ainsi que les lieux saints. Et pour autant, nul n'est invulnérable. Et si la défense anti-aérienne saoudienne a déjà intercepté des tirs de missiles, mais aussi de drones cet été, elle a déjà aussi été frappée car tout dépend de la taille du drone et de ses capacités. Alors souvenez-vous qu'en juillet, les Houthis avaient ainsi dévoilé avec fierté une partie de leur nouvel arsenal avec notamment un drone bombardier capable selon eux d'un rayon d'action de 1500 km et donc capable d'atteindre l'ensemble du territoire saoudien. Mais difficile de dire évidemment avec certitude d'où viennent ces armes, qui les a développées, même si beaucoup de doigts se tendent encore vers l'Iran. Alors jusqu'à l'an dernier, les Houthis récupéraient leur armement dans les bases de l'armée yéménite, mais depuis cet été, l'escalade de la tension dans le détroit d'Hormuz avec l'Iran, c'est vrai que la nature des attaques non seulement a augmenté, mais s'est aussi sensiblement améliorée en termes de précision.
Merci Claude Guibal. L'élection présidentielle en Algérie aura lieu le 12 décembre prochain, annonce faite hier à la télévision par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Un calendrier qui respecte minutieusement la suggestion du chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, le véritable homme fort du pays, qui avait lui réclamé des élections avant la fin de l'année. Toujours est-il que cette annonce ne devrait pas être de nature à faire taire la contestation, bien au contraire, puisque les manifestants s'opposent, eux, à la tenue rapide d'un scrutin. Et pourquoi ? Parce qu'ils y voient un moyen pour le système de se maintenir à la tête du pays. Même si les résultats officiels ne seront connus que demain en Tunisie, les premières estimations à l'issue de la deuxième élection présidentielle libre organisée hier depuis la révolution de 2011 laissent d'ores et déjà entrevoir non seulement le désenchantement des électeurs à travers un taux de participation particulièrement faible, mais aussi une possible insurrection électorale contre les partis du système ou à tout le moins un sérieux camouflet à l'égard de la classe politique dite traditionnelle. Si les sondages de sortie des urnes se confirment, deux hommes sortiraient en effet en tête de ce premier tour. Le premier, Kais Saied, un universitaire sans parti politique et présenté par ses adversaires du camp moderniste comme véhiculant des idées salafistes. Et puis le second, Nabil Karoui, publicitaire, magnat des médias et incarcéré depuis 3 semaines pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. De son côté, le candidat du mouvement islamiste Ennahda n'arriverait qu'à la 3e place. Quant au Premier ministre et son ministre de la Défense, il serait très largement distancé. Ou dit autrement, c'est donc dans un épais brouillard politique que toute la Tunisie s'est réveillée ce matin, le tout sur fond de graves crises, à la fois sociales et économiques. De quoi ouvrir évidemment une période d'immense incertitude dans ce pays pionnier du printemps arabe. Quoi qu'il en soit, et si ce scénario venait donc à se confirmer, Kais Saied, 61 ans, un professeur de droit conservateur, sortira en tête de ce premier tour avec près de 20% des voix. Jusque-là peu connu du grand public, l'homme a déjà écopé d'un surnom Robocop. Son portrait est signé de notre correspondante Maureen Mercier.
Robocop, pour son côté rigide et sa diction saccadée. 61 ans, il était quasiment inconnu des milieux politiques il y a encore à peine un an. Professeur de droit constitutionnel, il n'a qu'un mot à la bouche. Constitution, justement. Pour lui, le droit est la seule chose qui permettra à la Tunisie de se relever, de lutter contre la corruption qui a gangréné le pays jusque dans ses élites politiques. Kais Saied crée la surprise d'autant plus qu'il n'a pas de parti derrière lui. Il n'a pas la réputation d'être souriant, on le dit austère, mais droit et honnête. Sa campagne, il l'a mené de manière quasi ascétique, sans débauche de moyens, à sillonner le pays au volant de sa petite voiture. Ça n'est pas la norme ici. Kais Saied a promis, s'il était élu, qu'il ne s'installerait pas à la résidence présidentielle, le palais de Carthage. Le bling-bling, ça n'est décidément pas pour lui. « Je ne vous vends pas du rêve », c'est son slogan. Conservateur, hostile à l'égalité homme-femme dans l'héritage, Kais Saied est pour la peine de mort et le maintien de la criminalisation de l'homosexualité. Si les résultats se confirment et qu'il fera bel et bien face à Nabil Karoui, oui, homme d'affaires, patron de télévision, bête médiatique, les Tunisiens se seront choisis les candidats les plus opposés pour ce deuxième tour à la présidentielle.
Le président turc recevra aujourd'hui à Ankara ses homologues russes et iraniens pour un nouveau sommet sur la Syrie, le 5e du genre. Une fois de plus, l'objectif reste le même, concilier les positions entre d'un côté la Turquie qui soutient l'opposition syrienne et puis de l'autre la Russie et l'Iran, garant du régime de Damas. En l'occurrence, et alors que la victoire de Bachar el-Assad semble de plus en plus acquise, la priorité pour Ankara est aujourd'hui de se prémunir d'un nouvel afflux massif de réfugiés, en particulier en provenance du dernier bastion rebelle d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, sous le coup d'une offensive de Damas. C'était il y a tout juste 100 jours, un mouvement de contestation né du rejet d'un projet de loi d'extradition vers la Chine débutait à Hong Kong. Alors depuis, ce texte à l'origine de la crise a été officiellement retiré. Sauf que la mobilisation contre le gouvernement local pro-Pékin autant que contre le gouvernement central chinois ne s'est pas éteinte pour autant. Hier encore, une nouvelle manifestation a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes lors du 15e week-end de contestation consécutif. Les précisions à Pékin de Dominique André.
Ce matin, le China Daily, journal officiel chinois anglophone, publie la photo symbole de la manifestation d'hier soir. On voit des manifestants habillés en noir observer une grande banderole rouge se consumer dans les flammes. Dessus était écrit « Célébrons les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine ». Le journal communiste veut toucher à la corde sensible du nationalisme qui sera mis en avant lors des festivités géantes du 1er octobre à Pékin. Autant dire que le régime est plus qu'irrité par le défi que lui lance une génération de Hongkongais. Pékin continue de dénoncer la main des étrangers dans la crise et suit de près la tournée internationale de Joshua Wong, figure du mouvement des parapluies de 2014 qui appelle l'Occident à l'aide. Après avoir été reçu à Berlin, ce qui a provoqué la colère du gouvernement chinois, l'ambassadeur d'Allemagne à Pékin avait été convoqué, le jeune militant est maintenant aux États-Unis. Il demande à Donald Trump d'inclure les droits de l'homme dans ses négociations commerciales avec la Chine.
Boris Johnson, toujours déterminé à ce que son pays quitte l'Union européenne le 31 octobre prochain, avec ou sans accord, doit s'entretenir aujourd'hui avec le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, mais aussi le négociateur en chef des Européens, Michel Barnier. Alors, dans une interview accordée hier au Mail and Sunday, le Premier ministre britannique dit assurer que les négociations avec Bruxelles ont enregistré de gros progrès, en particulier pour trouver une alternative au fameux backstop, cette clause qui vise à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Pour autant, et quand bien même donc Boris Johnson se montre publiquement optimiste sur les chances de trouver un accord avec Bruxelles, la partie européenne reste prudente et continue surtout d'exiger de Londres que de nouvelles propositions soient mises sur la table. Ce matin encore, Jean-Claude Juncker a tenu à réaffirmer qu'il n'était pas question de revenir sur l'accord négocié avec Theresa May. En Italie, Matteo Salvini, écarté du gouvernement à l'occasion d'un spectaculaire changement de coalition, a annoncé hier que son parti d'extrême droite, la Ligue, allait déclencher une série de référendums pour tenter de faire barrage aux réformes projetées par le nouvel exécutif. Précisons que la législation italienne prévoit qu'un référendum peut être organisé si ses promoteurs réunissent au moins 500 000 signatures. Parce que la plupart d'entre eux refusent justement la convergence des retraites. Difficile de parler d'une vraie convergence des luttes. Il n'en reste pas moins que pour la première fois dans l'histoire sociale de la France, plusieurs professions qui n'ont pas franchement l'habitude de manifester, en l'occurrence des avocats, des médecins, mais aussi les salariés du transport aérien, ont tous décidé de se réunir en collectif pour défiler ensemble aujourd'hui dans la rue. Une journée d'action pour dénoncer le projet de captation sans sommation de leur régime autonome de retraite au profit d'un système universel, ainsi qu'entend le mettre en place l'exécutif. Alors évidemment, la particularité de chacun de ces régimes conduit à des colères catégorielles extrêmement spécifiques. Je vous propose d'écouter Ghislaine Sicre, présidente de Convergence Infirmière. Elle est interrogée par Annabelle Grelier.
Cette réforme de retraite va impacter les infirmières parce qu'elles vont subir de plein fouet une grande augmentation qui est de 14% de leur cotisation pour un rendement moindre. Aujourd'hui, c'est une précarisation de notre métier puisque déjà nous avons 4,50 euros brut. C'est le tarif que prend une infirmière pour effectuer une piqûre. Sur ces 4,50 euros, elles donnent aujourd'hui 45% de charge. Demain, elles donneront 60% de charge. Qui travaillerait pour moins de 2 euros aujourd'hui? Deuxième chose, on avait une caisse autonome qui se régissait toute seule. Il y avait des réserves et ces réserves vont être mises dans le pot commun, ce qui est inadmissible puisque jusqu'à présent, elles aidaient les plus fragiles et les infirmières qui avaient des parcours particuliers. Donc c'est un hold-up, un vrai hold-up de ces réserves. Ces réserves ont été constituées en économisant, c'était des fourmis, et demain, l'État cigale voudrait récupérer toutes ces réserves pour le mettre dans le pot commun.
Voilà, Ghislaine Sicre, présidente de Convergence Infirmière. Elle était interrogée par Annabelle Grelier. Pour continuer d'évoquer cette nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, invité de la rédaction, Maxime Thau, économiste à l'Institut des politiques publiques. Bonjour monsieur. Bonjour. À mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Première question monsieur Thau, est-ce que toutes ces professions libérales ont des raisons aujourd'hui de s'inquiéter?
Alors effectivement, la réforme implique un changement dans le taux de cotisation de ces professions, ce qui va, pour certaines, comme l'indiquait précédemment la dame, un doublement des cotisations retraite, ce qui fait que cela réduit le salaire net de ces gens, enfin le revenu net de ces gens, et mais à terme, en contrepartie de cette augmentation de cotisation, il devrait y avoir une augmentation de droits à la retraite et donc une augmentation des retraites futures de ce point de vue-là. Et effectivement, les fonds qui ont été mis de côté par ces professions libérales seront aussi versés au pot commun, mais devraient donner aussi droit à des avantages par ailleurs.
Donc vous dites finalement à ces professions, demain, les jours seront pas plus, seront meilleurs en fait, et vous n'allez pas perdre, au contraire, vous allez peut-être même gagner en termes de pension de retraite.
Alors donc ça dépend effectivement des conditions actuelles de chacun de ces régimes de retraite, mais chacune de ces cotisations donnera droit en contrepartie à des droits de retraite et donc à une pension de retraite. Donc toute cotisation
équivalente à celle d'aujourd'hui.
Alors ça dépend des régimes. Et effectivement, il y a des régimes qui sont plus ou moins généreux et la convergence, elle se fera au fur et à mesure entre le régime actuel et le régime futur.
Mais on peut estimer quand même que ces professions-là sont plutôt perdantes du nouveau système.
Alors certaines seront perdantes effectivement dans le nouveau système en entrant dans la dans le nouveau régime de solidarité nationale.
Donc c'est celle qu'on vient d'entendre, hein, les infirmiers, les pilotes, les avocats, etc. En revanche, vous qui avez analysé donc l'impact de la réforme de Levoix hein, sur la mise en place d'un système à points, vous dites que ce système est plus redistributif que le système actuel ?
Alors effectivement, dans une étude que l'on a menée à l'Institut des politiques publiques, on a examiné comment est-ce que le cœur du système, donc il s'agit effectivement de la formule du système de base, comment est-ce que cette formule dans le nouveau système sera plus ou moins redistributive. Donc il se trouve, et c'est un fait assez connu, que le système actuel est plutôt anti-redistributif, c'est-à-dire que ce sont les droits ou les cotisations des travailleurs les plus modestes qui financent les retraites des travailleurs les plus aisés. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le fait que la formule de calcul soit basée sur les 25 meilleures années est une première raison. Et une seconde raison aussi, c'est la revalorisation des droits portés au compte par l'inflation plutôt que par le salaire moyen. Ces deux raisons font que le système est anti-redistributif et comme le cœur du nouveau système est censé être purement contributif, il ne fera pas il y aura plutôt des gagnants dans le nouveau système dans les revenus les plus modestes.
Alors justement, ces gagnants, qui seront-ils ?
Donc les gagnants sont essentiellement, donc dans l'étude qu'on a menée, on montre que les gagnants sont essentiellement dans les 5 premiers déciles de revenus cumulés au cours de la carrière. Donc c'est plutôt les bas revenus, les personnes qui ont des carrières hachées et essentiellement les femmes qui appartiennent plutôt à ces déciles de revenus.
Et alors justement, cette réforme, quand on l'analyse à l'aune de vos études, on se dit finalement le gouvernement a très mal communiqué. Il avait peut-être un biais pour dire finalement cette réforme est plus juste. Pourquoi, selon vous, il n'arrive pas à convaincre ?
Alors, dans la manière dont a été annoncée la réforme, il y a cet âge pivot ou cet âge d'équilibre qui fait beaucoup débat.
À 64 ans.
À 64 ans, avec un coefficient de conversion de 5,5%. Donc, ce qui effectivement fait débat et ce qui diffère par rapport au système actuel. Dans le système actuel, les gens atteignent le taux plein en fonction de la durée ou de l'âge, s'ils n'ont pas atteint la durée avant l'âge du taux plein. Et donc, de ce fait, ça permet de rééquilibrer en quelque sorte entre les gens qui commencent tôt leur carrière et les autres. Et dans l'annonce du gouvernement, l'âge pivot ou l'âge d'équilibre a été fixé à 64 ans pour tous. Et donc, ça peut correspondre à une augmentation en quelque sorte de l'âge auquel les gens pensent avoir un taux plein ou un taux une pension complète et une diminution pour d'autres. Et il semble que l'acceptabilité tourne autour de cette question de savoir s'il est juste ou non que tout le monde doive travailler le même nombre d'années alors que certains ont commencé plus tôt que d'autres.
Et justement, quand Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, dit on va peut-être instaurer plus un paramètre durée de cotisation, est-ce que ça, c'est de nature à justement corriger ce déséquilibre ?
Effectivement, on a l'impression dans l'annonce d'Emmanuel Macron qu'il y a une tentative ici de remettre un peu cette notion de durée dans le système. Alors c'est un peu difficile de savoir exactement comment est-ce que le gouvernement va faire entrer cette notion de durée dans le nouveau système, étant donné que le nouveau système, l'ensemble des droits ou des cotisations versées sont comptés en points et que cette notion de durée, du coup, disparaît en quelque sorte du système. Mais il est tout à fait possible, en quelque sorte, de prendre en compte cette durée. Les points nécessairement reflètent en quelque sorte aussi la durée de cotisation de chacun des assurés.
Bon, il y a encore évidemment beaucoup de paramètres et de leviers à activer. J'ai lu dans l'une de vos publications une statistique qui est quand même assez frappante. Moins d'un tiers des actifs savent combien ils cotisent. Et puis une autre statistique, 18% seulement savent combien ils percevront au titre de leur pension de retraite. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'on a une méconnaissance complète de notre système actuel.
Effectivement, le système actuel est composé de nombreux systèmes. de nombreux régimes, pardon. Et il est difficile 42. Pour un assuré, 42 régimes, effectivement, et il est difficile pour un assuré qui a cotisé dans plusieurs régimes de savoir exactement quelle sera sa pension de retraite. Et il me semble que c'est dans le but aussi de cette réforme que de simplifier l'ensemble de ce système, d'avoir une seule unité de compte qui est le point et qui sera. Il sera plus facile certainement pour tout un chacun de calculer exactement son montant de retraite à liquidation.
Merci Maxime Thaux, économiste, je le rappelle, à l'Institut des politiques publiques d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne-Laure Jumet. Outre la mobilisation donc aujourd'hui contre la réforme des retraites, autre manifestation prévue, celle des agents des finances publiques. Plusieurs rassemblements doivent être organisés un peu partout en France. Des rassemblements pour dénoncer d'une part la disparition d'un millier de trésoreries sur l'ensemble du territoire national et puis d'autre part la suppression de 5800 emplois au ministère d'ici 2022 en raison notamment de la mise en place du prélèvement à la source et de la suppression de la taxe d'habitation. Le ministère de l'économie et des comptes publics justifie en effet ces réformes par la dématérialisation grandissante, en somme, des services de l'impôt. À ce titre, je vous propose d'écouter Bernadette Philips. Elle est secrétaire départementale de FO Finances Publiques dans l'Oise et répond à Anne-Laure Chouin.
C'est vrai que les services sont de plus en plus numérisés et que notre administration est de plus en plus moderne. Ça, nous, on en est même plutôt fiers. On n'a pas de problème avec ça. Sauf qu'il y a encore une grande partie de la population qui est frappée d'illettrisme numérique, comme on aime bien le dire maintenant. Et c'est eux qu'on voit à nos guichets. Ou des personnes âgées malvoyantes qui viennent carrément avec leur chéquier et qui nous disent « vous pouvez me remplir mon chèque ». Donc ça, avec un visio-rendez-vous, on ne pourra plus rendre ce service, qui est un vrai service de proximité, où les gens sont contents de rencontrer un agent de l'État qui inspire confiance. Hein. Et tout ça, oui, ça va disparaître. S'il n'y a plus que la Maison France Service, ça ne va pas être du tout la même chose.
On a Bernadette Philips, secrétaire départementale de FO Finances Publiques dans l'Oise. Elle répondait à Anne-Laure Chouin. Députés et sénateurs de La République En Marche et du Modem ont été conviés rue de Grenelle pour une réception en fin de journée autour du ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, mais aussi du Premier ministre Édouard Philippe. L'occasion de souder donc les troupes en vue des municipales, mais également de parler des sujets qui fâchent en cette rentrée, comme par exemple des retraites. Bref, un petit recadrage, en somme, sur la méthodologie de l'acte 2, auquel devrait également participer un certain Emmanuel Macron. Les explications de Stéphane Robert.
Cette réunion ce soir est une rencontre prévue de longue date, fait savoir le ministère des Relations avec le Parlement. Une rencontre entre une grande partie du gouvernement, une trentaine de ministres y sont attendus, et les parlementaires de La République En Marche, ainsi que des formations politiques alliées de la majorité. À l'origine, il n'était pas prévu qu'Emmanuel Macron y participe, mais il a décidé ce week-end de s'y inviter. Le chef de l'État est un adepte des visites surprises. Il s'était déjà invité au tout dernier moment à des réunions du même type en 2017 et 2018. Pour le pouvoir exécutif, cette rencontre est présentée comme une déclinaison au niveau parlementaire du séminaire gouvernemental de rentrée qui s'est tenu il y a 10 jours. Autrement dit, il s'agit de présenter aux députés et sénateurs de la majorité le plan de bataille du gouvernement pour les mois à venir et d'expliquer l'état d'esprit dans lequel il convient d'aborder l'acte 2 du quinquennat. Emmanuel Macron devrait une nouvelle fois insister sur le fait qu'il entend réorienter la relation de la majorité avec les Français sur les bases de l'écoute et de la bienveillance. Parallèlement, le président de la République entend faire savoir qu'il tient ses troupes et qu'il ne lâche pas ses ministres sur le résultat attendu de leur action. Plusieurs informations ces derniers jours font état de propos très fermes qu'il aurait tenus au moment du séminaire gouvernemental. « Soit vous changez, soit c'est moi qui vous change », aurait-il dit selon certains confrères. En réalité, on ne confirme pas dans les ministères qu'il aurait tenu de tels propos. Et pour cause, rapporte un conseiller en souriant, il ne va pas menacer ses ministres alors qu'il n'a personne pour les remplacer. Un des problèmes de la Macronie est précisément qu'il n'y a pas de banc de touche.
Le tribunal de commerce d'Évry examine depuis ce matin les offres de reprise pour Aigle Azur, avec a priori deux projets qui tiendraient la corde selon le gouvernement, l'un émanant d'Air France et du groupe Dubreuil, et puis l'autre d'un transporteur étranger, possiblement EasyJet. Alors la décision du tribunal pourrait être mise en délibéré, à moins qu'un repreneur ne soit désigné donc dès aujourd'hui. Enfin, ultime option toujours sur la table, le tribunal pourrait décider de la liquidation de la compagnie aérienne. Le procureur de la République a réclamé ce matin 4 ans de prison ferme à l'encontre des deux gérants du Cuba Libre, jugés depuis une semaine au tribunal correctionnel de Rouen. Les deux hommes sont jugés pour homicide involontaire et pour blessure involontaire. En août 2016, 14 jeunes avaient péri dans l'incendie de leur bar. On leur reproche d'avoir délibérément violé les obligations de sécurité et de prudence. La sécheresse en France, 85 départements sont aujourd'hui concernés par des mesures de restriction d'eau. 48 sont par ailleurs en situation de crise et 25 autres placés en alerte renforcée. On termine avec un mot du temps. Globalement estival, même si le ciel restera partiellement voilé près des côtes de la Manche. Quelques averses parfois orageuses sont également à craindre en fin de journée dans les Pyrénées. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.